Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
La première scène de cette longue histoire se déroule en mai 1978, le 26 très exactement, sur le campus de l'université de Northwestern, dans la banlieue de Chicago. Alors qu'il est à son bureau, un professeur, le professeur Buckley Christ, reçoit un drôle de coup de fil.
Monsieur le professeur ? Oui, bonjour, j'ai retrouvé votre paquet.
Mon paquet ? Mais quel paquet ? À l'autre bout du fil, c'est le vigile d'une université voisine, l'université de l'Illinois.
Écoutez, c'est un paquet qui est destiné à un certain Smith, professeur à New York, et vous êtes indiqué comme expéditeur. Je comprends pas ce que ce colis fait chez nous, il a dû se perdre.
Ce qui intrigue grandement le professeur Christ, c'est qu'il ne connaît pas ce professeur Smith de New York. Non, il n'en a jamais entendu parler. Et du coup, il ne lui a certainement pas envoyé de paquet. Mais qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds ? Écoutez, bougez pas, j'arrive. Le professeur est tellement intrigué qu'il va chercher le colis. Et c'est lourd, et c'est très bien emballé. Et la bizarrerie, ce sont les timbres. Il y en a trop, beaucoup trop. Et ce sont des timbres rares. Non, il ne va pas l'ouvrir tout seul, ce colis. Un sixième sens lui dit qu'il ne faut pas qu'il l'ouvre seul. Alors il l'amène au poste de police, juste en face de l'université. Et le policier se fiche un peu de sa poire. Vous croyez tout de même pas que c'est une bombe ? Au moment où le bonnet se met à rigoler, le paquet sur la table explose et prend feu. Pas une grosse explosion, mais suffisante pour qu'il se brûle les mains. Cette bombe qui vient d'exploser dans ce bureau de police de la banlieue de Chicago est la première d'une longue, très longue série. Mais ça, personne ne le sait encore. Un an et demi plus tard, le 15 novembre 1979, le vol 444 de la compagnie American Airlines décolle de Chicago avec 72 passagers à son bord, en direction de la capitale américaine, Washington. Quand soudain, les passagers entendent un bruit sourd. Et dans la foulée, le copilote qui parle depuis le poste de pilotage.
Ici le copilote. Nous faisons face à une dépressurisation soudaine de la soute à bagages. Il semble que quelque chose ait percé la soute.
Au même moment, de la fumée se met à remplir la cabine, accompagnée d'une odeur insupportable. C'est un gaz ! Au secours ! Le vol est immédiatement détourné vers l'aéroport le plus proche. Pendant 25 minutes, les passagers retiennent leur souffle en priant que l'avion n'explose pas en vol. 25 longues minutes, et puis l'avion atterrit sans encombre. Ouf ! Et au final, on ne compte que 10 blessés, 10 personnes incommodées par les fumées. Rien de grave. Les passagers ne savent pas encore qu'ils viennent d'échapper au pire. Le FBI, qui est en charge de l'enquête, découvre qu'il n'y avait pas de gaz, mais il y avait bien une bombe et elle n'a pas bien fonctionné. Une bombe artisanale dans une boîte en bois fabriquée avec des matériaux de récupération, notamment des boîtes de jus de fruits. Un travail d'orfèvre, très soigné. Le tout était relié à un détonateur altimétrique, autrement dit un détonateur conçu pour déclencher la bombe à une certaine altitude. Et c'est pas tout. C'était une bombe de grosse puissance. Et si elle avait explosé, elle aurait pulvérisé le vol 444 d'American Airlines. Pulvérisé. Tout le monde serait mort. Absolument tout le monde. La bombe était dissimulée dans un colis postal. C'était une bombe dite « tuyau » formée d'un étroit tuyau scellé et blindé d'explosifs. Ça n'est pas l'œuvre d'un bricoleur du dimanche, ça. Non. Celui qui a monté cette bombe était un terroriste, un vrai, qui a fait une erreur, certes, mais une petite erreur, qui sans doute ne se renouvellera pas. Dans la foulée, il n'y a aucune revendication, pas un mot. La bombe est la seule piste. Alors les gars du FBI se mettent à rechercher dans les dossiers d'autres affaires similaires, en se disant que peut-être le terroriste n'en était pas à son coup d'essai. A-t-on retrouvé quelque part dans le passé récent une bombe artisanale en bois, fabriquée avec des objets du quotidien? Une bombe tuyau déguisée en colis postal. Et vous? Vous connaissez la réponse, n'est-ce pas? À l'université de Northwestern, il y a un an et demi, le même genre de bombe a explosé dans les mains d'un policier. Et d'ailleurs, il y en a une autre, quelque temps plus tard, dans la même université. Cette fois-là, elle a sérieusement blessé un étudiant, un dénommé John Harris. Le FBI met immédiatement la main sur les reliquats des deux premières bombes. Et aucun doute, les trois bombes sont l'œuvre du même terroriste. Un serial bomber, donc en quelque sorte, mais qui ne revendique pas ses attentats. Ce qui est très étrange. Six mois plus tard, le 10 juin 1980, Percy Wood, le président de l'une des plus grandes compagnies aériennes américaines, la United Airlines, relève son courrier. D'habitude, il n'y a que des lettres, mais là, il y a aussi un paquet. Lourd. Il est à moitié surpris, il attendait un livre qu'un inconnu lui avait promis de lui envoyer. Il faut absolument que vous lisiez ce livre. Il est d'une importance capitale pour notre société. Percy Wood rentre dans son bureau, il ouvre le paquet, c'est bien un livre. Mais au moment où il l'ouvre, une bombe lui explose dans les bras. Et l'explosion est si forte qu'il y laisse sa main gauche. On avait creusé à l'intérieur du livre pour dissimuler le piège. Et voilà quatre bombes qui ont explosé. Et toujours aucune explication. Aucun message. Même si dans le dernier colis, le FBI a retrouvé une carte de visite. Deux lettres. Rien de plus sur cette carte de visite. La lettre F et la lettre C. F, C. Ça n'est pas une revendication, mais le terroriste fait savoir qu'il est là. Dans le grand hall de l'université de l'Utah, à Salt Lake City, on se presse pour aller en cours. Et au début, personne ne remarque le gros colis posé devant une salle de classe. C'est une employée qui finalement finit par s'y intéresser. Elle s'approche, elle est sur le point de le ramasser... Et quelque chose lui dit de ne pas le faire. Allô? Allô, oui, bonjour, il y a un colis suspect dans l'université. Je suis peut-être parano, mais vous pourriez venir voir? Les démineurs arrivent tout de suite. Et oui, c'est une bombe. Et ils réussissent à la désamorcer. Et ça, c'est une aubaine pour le FBI. Les flics ont enfin une bombe intacte à se mettre sous la dent. Comment est-elle fabriquée? Y trouve-t-on une matière typique d'une région des États-Unis? Y trouve-t-on une empreinte, au moins partielle? Tous les espoirs sont permis. En tout cas, dans la boîte, il y a la carte FC. La police pense que ce sont des initiales, mais en attendant de percer le mystère, le FBI lui a trouvé un autre nom à ce terroriste. Una Bomber. UN pour université, A pour avion, ses deux cibles préférées. Pour tenter de l'identifier, autant vous dire qu'il y a du monde sur le coup. Le FBI dresse une longue liste de suspects. Et en parallèle, il fait bosser des profilers qui tentent à partir des lieux qu'ils visent et de la nature des bombes de déterminer le profil du ou des terroristes. On recherche un homme, blanc, entre 20 et 35 ans, qui vit probablement dans le Midwest, qui possède au moins une éducation secondaire, qui travaille probablement dans un domaine technique, peut-être en lien avec l'aviation. Et on croise ce profil avec la liste des suspects, en cherchant au passage tous ceux dont les initiales seraient FC. Ça ne débouche malheureusement sur rien qui vaille. C'est alors que le chef des détectives du FBI, Chris Roney, annonce qu'il a une idée. Une idée qui vaut ce qu'elle vaut, mais une idée tout de même. Le bois! C'est le point commun entre tous ces attentats. La plupart des bombes étaient dans des boîtes en bois. À l'exception de la dernière qui était dans un livre. Mais j'ai mieux que ça. Le bois, il est toujours là, même dans le nom d'une des victimes. Le PDG de United Airlines s'appelle Percy Wood. Et en plus, il habite à Lake Forest, rue Forest Hill. Je rappelle au non anglophone que Wood signifie bois en anglais. Et Forest, forêt. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça paraît un peu tiré par les cheveux. Non? Sauf que ça se confirme. quand un colis piégé explose le 5 mai 1982 dans les mains de l'assistante d'un professeur de l'université de Vanderbilt. La bombe était emballée dans du bois. Et vous savez quel est le nom de l'expéditeur de ce colis? Leroy Wood Bearson. Encore une allusion au bois. Plus ça va, moins ça paraît être le fruit du hasard. Non? Deux mois plus tard, le 2 juillet, à l'université de Berkeley, le professeur Diogène Angelakos, professeur d'ingénierie électronique, va faire un tour à la cafétéria. Elle est déserte et par terre, il y a un truc bizarre. On dirait un seau. Le professeur essaye de le soulever, l'explosion le projette à terre. Il perd plusieurs doigts, il va garder des séquelles à vie. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose en plus. Un vigile dit qu'il l'a aperçu quand il est venu déposer la bombe. Ah, maintenant que vous le dites, j'ai vu un homme encapuchonné. Il a posé le paquet, j'ai trouvé sa louche, mais je l'ai pas vu d'assez près. Hein. Cet attentat aura une conséquence très douloureuse. Le professeur Diogène Angelakos, au moment où il est blessé, accompagne jour et nuit sa femme qui est atteinte d'un cancer. À cause de la bombe, il passe des semaines à l'hôpital, il ne peut plus s'occuper de sa femme et au bout d'un mois, elle meurt. Mais qui est ce foutu bonhomme? Qui pose des bombes sans jamais dire pourquoi? 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 En tout cas, à partir de ce moment-là, on ne va plus entendre parler de Yuna Bomber pendant 3 ans. Jusqu'au 15 mai 1985, toujours à l'université de Berkeley. Un étudiant, John Hauser, qui allait commencer l'entraînement pour devenir astronaute, ramasse un colis qui lui explose dans les mains. Il ne sera jamais astronaute. Il a perdu 4 doigts à la main droite. Et vous savez qui accourt pour lui porter secours? Le professeur Diogène Angelakos. Cette année 1985 est une grande année pour Yuna Bomber. Dans la foulée, il envoie 3 autres colis qui, comme les précédents, ne font que des blessés. Mais le 11 décembre, il franchit un cap. Il a posé une boîte sur un parking de Sacramento. Une boîte en bois, comme d'habitude. Mais celle-là est hérissée de clous. Elle est faite pour tuer. Alors quand un passant veut la mettre dans la poubelle, elle explose et il meurt sur le coup. Le premier mort de Yuna Bomber. Et c'est le coup d'après qu'il commet une erreur fatale, qui annonce non la fin, mais au moins le début de la fin de Yuna Bomber. Quand il apprend que quelqu'un l'a vu et qu'un portrait robot de lui circule dans tous les États-Unis, Yuna Bomber arrête tout. Et il arrête tout pendant 6 longues années. Et il réapparaît en 1993, le 22 juin. Le docteur Charles Epstein, généticien à l'université de San Francisco, rentre chez lui. C'est le premier jour de l'été et il a en projet de faire un peu de violoncelle. Mais avant, il commet l'imprudence d'ouvrir le colis qu'il vient de trouver avec le courrier et qui lui est envoyé par un certain James Hill, chef du département de chimie de l'université de Sacramento. Et boum! La boîte lui explose à la figure et il est projeté en arrière et toutes les fenêtres de sa cuisine explosent. Couvert de sang, il parvient à sortir de la maison pour appeler à l'aide. Il va rester des heures sur le billard et perdre plusieurs doigts. Fini. Le violoncelle. Et il arrive à peu près la même mésaventure 2 jours plus tard à un professeur de l'université de Yale. Yuna Bomber est de retour. Et dans la foulée, pour la première fois, il envoie une lettre à un journaliste du New York Times. « Nous sommes un groupe anarchiste nommé FC. le FBI qui a entendu parler de nous vous fournira des précisions sur FC. Et il donne aussi un numéro 553-25-4394. Le FBI se rend compte qu'il s'agit d'un numéro de sécurité sociale. Et le numéro de qui ? Le numéro d'un jeune homme de 20 ans qui est en liberté conditionnelle. Ça serait lui ? Ça serait lui, Yuna Bomber ? On vérifie. Le garçon était en prison au moment des attentats, donc ça n'est pas lui. Mais quand on zoome sur sa photo, le gars a un tatouage sur le bras. Et vous savez ce qu'il est écrit sur son bras ? 100% pur bois. Il s'amuse. Il s'amuse avec le FBI. Jusqu'ici, tout ce que je vous ai raconté, pour les gens, pour les Américains moyens, ce sont des choses isolées, des colis qui explosent, mais qui n'ont pas de lien. Les gens n'ont jamais entendu parler de Yuna Bomber. Le FBI est parvenu à garder ce dossier secret. Mais à partir de maintenant, avec la lettre qu'il a envoyée aux journaux, il n'y a plus de secret. Dans les jours qui suivent, toute l'histoire est dans la presse. Yuna Bomber, le fou qui pose des bombes au hasard. Et dans la foulée, c'est l'avalanche. Tout le monde connaît un potentiel Yuna Bomber. Un voisin louche, un collègue de travail bizarre. Tout ça donne beaucoup de travail au FBI. Sauf que dans la foulée, ça s'accélère. Le 10 décembre 1994, Thomas Moser, un publicitaire, ouvre un colis dans sa cuisine. Il est décapité. L'autre fou est devenu un expert. Il peut tuer qui il veut, quand il veut. Et il s'apprête à jouer un gros coup. Le 24 avril 1995, il tue un industriel du secteur du bois. Et oui, encore un colis. Et dans la foulée, il poste une nouvelle lettre au New York Times et au Washington Post. Vous voyez bien que nous sommes en position de causer beaucoup de dégâts. Vous voyez aussi que le FBI n'est pas prêt de nous attraper. Et dans cette lettre, il propose un marché étonnant. Nous voulons publier un long article, un manifeste de 30 000 mots. Si vous parvenez à le publier selon nos exigences, nous cesserons toute activité terroriste. Sinon, nous continuerons. C'est un coup de tonnerre. Les directeurs de journaux, évidemment, se demandent « Qu'est-ce qu'on fait ? On le publie ou on ne le publie pas ?» ce manifeste. Faut-il publier la pensée de ce malade, de ce tordu ? A-t-on le choix ?
Le New York Times et le Washington Post se sont longuement concertés. Ils ont consulté le ministère de la Justice et le FBI qui leur ont répondu que le personnage était parfaitement capable de mettre ses menaces à exécution. Les directions des deux journaux ont donc décidé, pour des raisons de sécurité publique, de publier ce matin un étrange supplément de 8 pages au caractère serré et au contenu abscons sous le titre « L'avenir de la société industrielle ». Cette publication donne lieu déjà à débat. Pour certains, le prix à payer n'est pas élevé s'il s'agit de sauver des vies humaines. Pour d'autres, les journaux américains s'engagent dans un engrenage dangereux qui pourrait donner des idées. Washington, Jean-Bernard Cadier, Europe 1.
Ce manifeste, est-ce qu'il faut que je vous dise ce qu'il y a dedans ? Franchement, c'est du charabia. Totalement incompréhensible. Des mots mis bout à bout, mais rien de cohérent. Ce type est complètement cinglé. Mais la grande idée du FBI quand il dit aux journalistes « Allez-y !» publié, c'est que quelqu'un va peut-être reconnaître le style de cette prose délirante. Et c'est ce qui va se passer. David, t'as regardé le manifeste de Yuna Bomber dans le journal ? Tu devrais regarder, je te le jure, on dirait les délires de ton taré de frère. Arrête de l'appeler taré. David, je te promets, prends 5 minutes. Regarde ! La scène se passe début 1996, chez un certain David Kaczynski, à Albany, dans l'État de New York. Tu vas voir, je vais le lire et je vais te dire que ça n'a rien, mais rien à voir avec Ted. Et j'aurais bien perdu mon temps. Mais l'important, c'est qu'il le lise. Et il le lit. Et ça ne se passe pas du tout comme il l'avait prévu. Dès les premières lignes, il ressent un gros malaise. Oui, c'est le style de son frère, les idées fixes de son frère, la guerre contre la technologie, le retour à la nature, une écologie ultra radicale. Ça lui rappelle un texte que son frère lui a envoyé il y a quelques années. Il l'a gardé, ce texte. Il fouille dans ses affaires et il le trouve. Et il compare. Et il s'aperçoit que le texte que son frère lui avait envoyé est le brouillon du manifeste. Il y a même des passages totalement identiques. Yuna Bomber, c'est son frère. C'est son frère Théodore, Théodore Kaczynski. Pour être honnête, ça fait longtemps que sa femme lui disait qu'il était bizarre, son frère. Et lui, il faisait l'autruche. « Laisse mon frère tranquille, il vit en ermite dans une cabane sans eau ni électricité dans le Montana, il embête personne !» Ce frère qui vit en ermite, il a tout fait pour l'aider pendant des années. Il lui a même trouvé du travail, et puis il a fini par le virer. Trop étrange, trop agressif. Ça serait donc lui, Yuna Bomber. Pour en être certain à 100%, il soumet les deux textes, le sien et le manifeste, à un détective et à des experts indépendants. Leurs conclusions sont sans appel. Les similarités sont trop fortes pour être une coïncidence. Alors en février 1996, David Kaczynski prend un avocat et contacte le FBI, avec bien sûr un nœud dans la gorge. Parce qu'en vérité, il faut être clair. Il est en train d'envoyer son frère à la chaise électrique. Et il convainc tout de suite le FBI. Théodore et Yuna Bomber. Et Théodore Kaczynski vit au milieu des bois dans le Montana. Il faut le neutraliser tout de suite. Sauf que vu sa maîtrise des explosifs, il faut être très prudent. Le 3 avril 1996, des centaines d'agents du FBI prennent position autour de la cabane de Théodore dans les bois de Lincoln, dans le Montana. Ils ont décidé de le coincer par la ruse. Et pour ça, ils ont mobilisé un garde forestier du coin qui s'approche de la cabane avec deux policiers en civil. Ils vont tout simplement toquer à la porte. Ted, t'es là? Toi qui connais le coin, tu pourrais pas montrer à ces messieurs où se trouve une propriété? Et Théodore Kaczynski sort de sa cabane. Il est hirsute et sale comme une bête. Et au moment où il se retourne pour prendre son manteau, il lui saute dessus et il lui passe les menottes.
Il vivait dans une cabane au milieu des bois, c'est peut-être l'homme le plus recherché des États-Unis. La police interroge un homme de 53 ans, ancien professeur de mathématiques, vivant en ermite, sans téléphone et sans électricité, dans les neiges du Montana. Selon le FBI, l'homme est très fortement soupçonné d'être Yuna Bomber, ce personnage inquiétant qui dissémine des bombes depuis 18 ans dans tous les États-Unis. Un terroriste solitaire et particulièrement méticuleux, ce qui lui a permis d'échapper à la police. Ces bombes ont tué 3 personnes et en ont blessé 23. Essentiellement dans les milieux universitaires et scientifiques. L'été dernier, Yuna Bomber avait publié un texte où il exprimait son hostilité envers la société industrielle. C'est apparemment la famille de Théodore Kaczynski qui a alerté la police après avoir trouvé des textes étranges dans ses affaires personnelles. De très forts soupçons pèsent sur l'ermite du Montana. Le FBI cherche maintenant des preuves. Sa propre mère est persuadée de sa culpabilité. Washington, Jean-Bernard Cadier, Europe.
Yuna Bomber est neutralisé. Et Dieu sait qu'il sent mauvais. Dire que ce type-là est diplômé d'Harvard, dire qu'il a enseigné à Berkeley, c'est pour ça qu'il ciblait les universités. C'est son milieu. Dans la cabane, on retrouve tout le matériel qui servait à fabriquer les bombes et une bombe prête à l'emploi. Et 40 000 pages de notes manuscrites sur la fabrication d'explosifs. Yuna Bomber va échapper à la chaise électrique. Il est condamné à la prison à vie, sans qu'une possibilité de remise de peine.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.